Et aujourd'hui, nous allons écouter Bertrand Marchal, que j'ai longtemps eu comme collègue à la Sorbonne, et qui est le plus éminent connaisseur de Mallarmé aujourd'hui. Alors, il ne va pas parler du cygne, me dit-il, mais il en a déjà beaucoup parlé. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur Mallarmé, notamment de la religion de Mallarmé, qui vient de connaître récemment une nouvelle édition en 2018. Et il est l'éditeur des volumes de la Pléiade, des deux magnifiques volumes des œuvres complètes de Mallarmé dans la Pléiade, qui ont été publiés en 1998 et en 2003. Enfin, je voudrais évoquer le superbe volume de la correspondance qui a paru il y a quelques mois, épais volume que je vous recommande et qui remplace donc les nombreux volumes incomplets de la correspondance que nous avions jusque-là. C'est un magnifique travail. Il a donné comme titre Mallarmé et la fin de la littérature, mais je vois que c'est un petit peu modifié et qu'un S s'est introduit entre parenthèses dans le titre pour aujourd'hui, Mallarmé, fin de la littérature, quelques remarques. À toi la parole.
Merci. Je voudrais remercier donc Antoine Compagnon de m'avoir invité à parler devant vous et puis m'excuser pour ce changement in extremis de titre dû précisément au cours d'Antoine Compagnon qui a fait valoir tout au long de ce cours la pluralité des fins de la littérature, donc j'ai ajouté un petit S pour suivre le courant. Si j'ai choisi Mallarmé, ce n'est pas simplement par spécialité, c'est aussi parce que Mallarmé représente un cas particulier concernant la question des fins de la littérature notamment, un cas particulier au regard d'une tradition critique qui est toujours vivace. Cette tradition critique, elle est illustrée par exemple par Sartre, qui a écrit sur Mallarmé ceci, « C'est le moment même du suicide qu'il faut reproduire dans le poème, puisque l'homme ne peut créer, mais qu'il lui reste la ressource de détruire, puisqu'il s'affirme par l'acte même qu'il anéantit, le poème sera donc un travail de destruction. Considéré du point de vue de la mort, la poésie sera, comme le dit fort bien Blanchot, ce langage dont toute la force est de n'être pas, toute la gloire d'évoquer en sa propre absence, l'absence de tout. Le poème naîtra donc du suicide du poète, de sa disparition élocutoire, on cédera l'initiative aux mots. Ce suicide est un génocide. L'holocauste des mots s'accompagnera de l'holocauste des choses. » Roland Barthes écrit ceci. On sait que tout l'effort de Mallarmé a porté sur une destruction du langage. Ce pur meurtre de la littérature dont nous savons depuis Mallarmé qu'il est le tourment et la justification de l'écrivain moderne. Cet art a la structure même du suicide, le silence y est un temps poétique homogène qui coince entre deux couches et fait éclater le mot moins comme le lambeau d'un cryptogramme que comme une lumière, un vide, un meurtre ou une liberté. On sait tout ce que cette hypothèse d'un Mallarmé meurtrier du langage doit à Maurice Blanchot. Voici donc un Mallarmé qui est un serial killer, ou en bon français un tueur en série, peu recommandable, et toute cette tradition a pour inspirateur, comme le signalent les références des deux auteurs cités, mais on pourrait en citer d'autres, Maurice Blanchot, l'auteur du livre à venir, le livre à venir qui pose dans sa quatrième partie la question fondamentale « Où va la littérature ?» et qui, s'inspirant de Mallarmé, écrit « La littérature va vers elle-même, vers son essence, qui est la disparition. » En somme, Mallarmé est devenu le prophète d'une eschatologie générale et négative. C'est un peu contre cette tradition que je voudrais m'élever, et en posant la question de la fin, dans un tout premier sens, celui de la fin comme finalité. Quelle est, si l'on parle de fin de la littérature, la finalité de la littérature ? Cette finalité, Mallarmé l'a énoncée de façon tout à fait claire. Cette finalité, elle est bien connue. C'est le cliché le plus répandu à propos de Mallarmé, c'est le livre. Le livre, avec un L majuscule, ou bien, plus modestement, un livre. C'est ce que résume la célèbre formule « Tout au monde existe pour aboutir à un livre ». Cette formule a servi de modèle, évidemment, au livre à venir de Blanchot et à quelques autres. Elle a pu aussi servir de repoussoir à un certain nombre de critiques, au sens négatif du terme, de critiques de Mallarmé, qui ont considéré qu'une telle formule, « Tout au monde existe pour aboutir à un livre », était une façon d'escamoter le livre, d'escamoter le monde au profit du livre, c'est-à-dire au profit de ce que certains considèrent comme un fétichisme absolu de la littérature. Alors, si le livre est la finalité de la littérature, quelle est donc la finalité du livre ? Cette finalité du livre est-elle celle que dit Blanchot, aller vers la disparition de la littérature ? Est-elle celle que dit Sartre, celle d'escamoter le monde, par exemple ? Sartre qui fait de Mallarmé le terroriste, certes de la politesse, c'est-à-dire celui qui, au lieu de faire sauter le monde, le met entre parenthèses. Eh bien, ni l'un ni l'autre. La finalité du livre, telle que Mallarmé l'a définie de façon parfaitement claire, c'est ceci, c'est comprendre le monde. Les choses existent, nous n'avons pas à les créer, nous n'avons qu'à en saisir les rapports, et ce sont les fils de ces rapports qui forment les vers et les orchestres. Voilà la formulation la plus simple, la plus parlante. Il s'agit non pas de redoubler le monde par la littérature, de le dupliquer inutilement, il s'agit de le comprendre au sens plein du terme. Et qu'est-ce que c'est que comprendre le monde ? C'est non pas répéter les choses, non pas les exprimer, non pas les dire, mais en saisir les rapports. Voilà la finalité du livre. Comprendre le monde, pourquoi ? Parce que comprendre le monde, c'est, pour utiliser la formule de Mallarmé, authentiquer notre séjour, c'est-à-dire justifier notre présence sur Terre. On le voit, donc Mallarmé ne cherche pas du tout à escamoter le monde et à le remplacer par le livre. Le livre n'a que ce but de comprendre le monde. Alors comment Mallarmé en est-il arrivé à cette résolution de comprendre le monde ? Cela n'allait pas de soi quand on regarde le point de départ. Mallarmé, au départ, est un poète absolument idéaliste. Un poète absolument idéaliste qui va pourtant connaître une révolution intérieure. Pour lui, jusqu'à cette révolution intérieure, la poésie se confond avec l'idéal absolu. C'est la part des dieux. N'oublions pas que la tradition poétique fait de la poésie le langage des dieux. C'est la part des dieux, c'est ce qui s'oppose à la réalité qui est, pour lui, absolument honnie. Cet idéalisme absolu va donc n'avoir qu'un temps, puisque Mallarmé, lorsqu'il travaille sur Hérodiade en 1866, va faire une découverte fondamentale et bien connue, c'est la découverte du néant. Et cette découverte n'est pas une découverte faite par une réflexion philosophique, elle est faite par un travail sur le vers. En creusant le vers à ce point, j'ai rencontré deux abîmes qui me désespèrent. L'un est le néant, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme. Découverte du néant qu'il ne faut pas mésinterpréter. Qu'est-ce que c'est que découvrir le néant ? Cela ne veut pas dire découvrir que le monde n'existe pas ou que rien n'existe. Découvrir le néant, toujours en rapport avec l'idée de creuser le ver, c'est découvrir que lorsqu'on creuse le ver, et quand on creuse le ver, c'est qu'on recherche le fondement de la poésie, c'est découvrir qu'il n'y a pas de fondement à la poésie, qu'il n'y a pas de fondement ontologique à la poésie, que la poésie n'est rien d'autre qu'une production humaine parmi d'autres. Cette découverte s'accompagne, comme on le sait, d'une profession de foi matérialiste. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais aussi d'une reconnaissance de ce qu'il appelle la sublimité de l'homme, l'homme qui a inventé Dieu et notre âme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'homme est certes un être matériel et fini, mais un être matériel et fini qui porte en lui la capacité de l'infini. Et cette capacité de l'infini, elle procède évidemment de la capacité qu'a l'homme de parler et donc de donner du sens au réel qui l'entoure. Cette découverte va cependant provoquer une crise de plusieurs années, pendant lesquelles Mallarmé va s'attacher à réfléchir, à repenser intellectuellement cette découverte qu'il a faite de façon inopinée, en poète. Et il va également se servir de cette réflexion sur les trois années qui vont l'occuper pour essayer de faire le deuil de ce qui procède directement de cette découverte, c'est-à-dire le deuil de l'absolu. Il va sortir de cette crise en 69, trois ans après, par la lecture du discours de la méthode de Descartes, et plus précisément de la première phrase de la quatrième partie, celle qui inaugure la grande méthode cartésienne du doute hyperbolique. « Je me résolus, écrit Descartes, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. » Et le mot qui retient Mallarmé, le mot qui inaugure cette grande méthode qui va aboutir à la reconstruction de tout l'édifice du savoir, c'est le verbe « feindre ». En d'autres termes, c'est la notion de fiction qui va devenir centrale pour Mallarmé, cette notion de fiction dont il tire cette note contemporaine de cette découverte de Descartes. Toute méthode est une fiction et bonne pour la démonstration. Le langage lui est apparu l'instrument de la fiction. Il suivra la méthode du langage, la déterminer, le langage se réfléchissant. Enfin, la fiction lui semble être le procédé même de l'esprit humain. C'est elle qui met en jeu toute méthode et l'homme est réduit à la volonté. Page du discours sur la méthode, sic. Trois notions fondamentales dans ces quelques lignes, dans ces quelques notes. Trois termes fondamentaux, c'est d'une part l'esprit humain, d'une deuxième part, c'est le langage et troisième, c'est évidemment la fiction. Et ces trois notions, ces trois termes s'articulent de la façon suivante. L'esprit humain ne peut produire que des fictions. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut entendre le mot de fiction comme illusion. Le mot fiction, désormais, désigne tout ce qui est le produit de l'esprit humain, c'est-à-dire tout ce que produit l'homme et qu'il produit par son langage. Et ce n'est une illusion, la fiction, qu'à partir du moment où cette fiction ne se reconnaît pas comme telle et se donne comme un absolu. Et c'est évidemment la tentation inévitable de toute fiction que de se donner comme un absolu. Donc, l'esprit humain ne produit que des fictions. Et l'instrument unique de ces fictions, de la production de ces fictions, c'est le langage. Le langage comme instrument de production des fictions. Ce qui veut dire que les fictions, ça ne concerne pas seulement la littérature au sens étroit du terme. Ça concerne, si l'on veut, la littérature au sens le plus large du terme et le plus traditionnel, c'est-à-dire tout ce qui procède des lettres, ta grammata, ou les lettres, litterae, en latin. En somme, Mallarmé, dont on a fait souvent le champion de la littérature pure, est celui qui reste fidèle à une conception encyclopédique de la littérature, celle qui désigne, en somme, tous les savoirs qui procèdent des lettres originelles. Alors, cette découverte de la fiction, évidemment, qui trouve son lieu dans le langage, va l'entraîner à s'intéresser à la science du langage, et plus précisément à la science du langage de son temps, qu'on commence à appeler la linguistique. C'est ainsi qu'il va rencontrer intellectuellement, bien entendu, le plus grand linguiste de son temps, par la lecture, c'est l'Allemand Max Müller, qui travaille en Angleterre, et qui est à la fois le plus grand linguiste de son temps et un vulgarisateur extrêmement patenté. ce qui lui permet de toucher un assez large public. Ce que Mallarmé retient de la science du langage de son temps, qui est issue évidemment de la révolution qui s'est produite au début du siècle avec la grammaire comparée de Bopp. Ce qu'il retient, c'est deux choses, au moins. La première chose, c'est l'idée que Max Müller se fait de la science du langage. La science du langage, qu'on commence à appeler la science du langage, n'est pas une science comme les autres, n'est pas une science parmi les autres. Pourquoi ? Parce que la science du langage, c'est la seule science qui se donne comme objet d'étude ce qui est le moyen traditionnel de toutes les autres sciences, c'est-à-dire le langage. Ce qui veut dire que la science du langage n'est pas une science à côté des autres. C'est une espèce de science réflexive, c'est une science qu'on peut appeler une métascience. Alors, évidemment, c'est une formule que Max Müller n'emploie pas, mais il en fait, à ses yeux, la science qui couronne toutes les autres sciences, qui couronne l'édifice du savoir depuis les siècles où ces sciences se sont constituées jusqu'au XIXe siècle. Évidemment, cette idée d'une métascience qui est métascience parce qu'elle est réflexive ne peut pas ne pas donner des idées à un poète qui est le poète réflexif par excellence. La deuxième leçon peut-être que porte Max Müller, c'est l'idée que, puisque c'est la révolution indo-européenne ou indo-germanique, comme on disait à l'époque, eh bien, c'est l'idée que toutes les langues indo-européennes, en somme, dans leur diversité et dans la diversité des représentations qu'elles portent, procèdent en réalité d'un petit stock de signes primitifs qu'on peut appeler les lettres de l'alphabet ou qu'on peut appeler les racines indo-européenne. C'est à partir de ce petit stock de racines ou à partir de ce stock de lettres de l'alphabet, l'alphabet c'est une vingtaine de signes, que se sont constituées toutes les langues dans leur extrême diversité et dans leur extension prodigieuse. Et par quels moyens ces langues se sont-elles développées, dit Max Müller, par un moyen fondamental. Un moyen fondamental qui explique ce développement. Ce développement a pour instrument essentiel la métaphore. C'est la métaphore, dit Max Müller, qui permet ce déploiement gigantesque de quelques racines originelles en la diversité des langues. C'est-à-dire que la métaphore, c'est le procédé analogique qui est le mécanisme fondamental et inconscient du développement du langage. Secondairement, l'autre procédé, c'est encore un procédé cher au poète, c'est l'allitération. Là encore, c'est un procédé analogique, mais par analogie de lettres ou de phonèmes. Il en résulte que pour un poète comme Mallarmé, qui a la conscience, comme il l'écrit, que le poète, c'est celui qui fait un usage conscient, toujours conscient des métaphores et des allitérations, toujours conscient des figures, celui-là n'est peut-être pas le plus mal placé pour comprendre ce qui se joue dans l'aventure du langage. Voilà pourquoi, donc, Mallarmé peut reprendre à son compte quelque chose de la leçon de Max Müller. Certes, il ne se fera pas linguiste, tout en ayant le projet de faire une thèse de linguistique. Il abandonnera très vite. Mais il fait de cette érudition linguistique, il fait ce qu'il appellera le fondement scientifique de son œuvre. Œuvre de poète, certes, œuvre de poète qui peut sembler parfois fantaisiste, mais qui s'appuie sur un savoir scientifique qui est le savoir le plus pointu de son temps. Voilà pourquoi on peut trouver une illustration de cette logique, par exemple, dans la musique et les lettres. Mallarmé pense, il fait une conférence en Angleterre sur la musique et les lettres, conférence qui lui a été commandée, et il traite donc de ce sujet. Et traiter de ce sujet, ce n'est pas parler d'abord de la musique, ce n'est pas parler d'abord des lettres, le mot important dans le titre, c'est « et », la musique et les lettres. En somme, ce que pense Mallarmé, c'est moins les objets qui sont repris que l'élément qui permet de penser le rapport, c'est-à-dire le « et ». Et ce qu'il conclut au milieu de sa conférence, c'est que la musique et les lettres sont la face alternative, ici élargie vers l'obscur, scintillante là avec certitude, d'un phénomène le seul, je l'appelais l'idée. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur cet aspect, simplement, ce qu'il constate, c'est que ce rapport, c'est un rapport très étroit entre la musique et les lettres, qui ne sont que les deux faces d'un même phénomène qu'il appelle l'idée. Voilà une façon de penser le rapport. Alors c'est vrai que cela concerne directement le domaine du poète, poésie et musique, mais ce n'est pas que cela, puisqu'à la fin de la conférence, lorsqu'elle est publiée, il va ajouter une note qui se lit ainsi. « La vérité, si on s'ingénie au tracé, ordonne industrie aboutissant à finance comme musique à lettres pour circonscrire un domaine de fiction, parfait terme compréhensif. » Et il ajoute à la fin, « Tout se résume dans l'esthétique et l'économie politique. » Pourquoi dit-il cela ? Pour prévenir que, traitant la musique et les lettres, il n'a traité que la moitié de son sujet. S'il est vrai que tout se résume dans l'esthétique et l'économie politique, il a parlé d'esthétique en parlant de la musique et des lettres. Mais s'il avait voulu traiter le sujet entier, il aurait fallu traiter à la fois de l'esthétique et de l'économie politique. Et l'économie politique, cela veut dire l'industrie et la finance. Alors on pourra penser que c'est absolument fantaisiste, pas du tout, parce que Mallarmé a effectivement pensé l'économie politique sous la forme de l'industrie et sous la forme de la finance, même si c'est dans des termes qui ne sont pas toujours accessibles pour les raisons que l'on connaît. Donc, si l'on considère le sujet entier, c'est-à-dire celui qui résume, qui conjoint esthétique et économie politique, alors le véritable terme fédérateur, ce n'est plus l'idée comme entre la musique et les lettres, le terme fédérateur, celui qui dit le rapport, c'est le terme de fiction. D'où l'appellation qui est donnée de la fiction, c'est le parfait terme compréhensif. Au sens propre du mot, c'est le terme qui permet de comprendre, c'est-à-dire de prendre ensemble musique, lettres, industrie et finance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'industrie et la finance sont des fictions au même titre que la musique et les lettres. Et ce qui vaut pour l'industrie et la finance vaut pour toutes les activités humaines, parce que précisément, ce sont des activités humaines. Et comme ces activités humaines procèdent du langage, alors l'écrivain, le poète est peut-être le mieux placé pour comprendre à partir de ce socle commun du langage ce qui se joue dans ces activités qui sont évidemment à l'époque moderne séparées par la division du travail et qui s'arrangent chacune de son côté pour se donner comme une science à part, alors que le poète est celui qui est capable de penser au-delà de la séparation l'unité de tous ces savoirs humains. Il en résulte que le livre est l'expansion totale de la lettre, dit Mallarmé. L'expansion totale de la lettre. L'origine, c'est toujours la lettre, c'est toujours les lettres. Ta grammata, litterae, c'est cela la littérature. Et la littérature est par conséquent la discipline, non pas spécialisée, mais générale, qui permet de penser tout cela. Il faut ajouter que Max Müller apporte une dernière information essentielle à Mallarmé, c'est qu'il est à la fois linguiste et fondateur d'une science nouvelle, la mythologie comparée, qui n'est que l'application de la linguistique nouvelle à l'étude de la mythologie. Et ce que montre la mythologie comparée, c'est que toutes les divinités de la mythologie ne sont rien d'autre que des noms, des mots dont on a oublié l'origine. Autrement dit, c'est du langage amnésique. Lorsque le langage est amnésique, il produit des divinités, comme le rappelle la célèbre paronomase qui a cours partout à l'époque, nomen, noumen. Un nom produit un dieu, paronomase latine. Noumen, c'est le dieu, la divinité. Eh bien, tout nomen produit du noumen, si l'on n'a pas conscience que c'est du nomen. Et par conséquent, Mallarmé, là aussi, tirera la leçon de cette déconstruction étymologique des dieux, sauf que chez les esprits positifs comme Max Müller, cette leçon se limite au mythe antique. Et ce que Mallarmé conçoit, c'est que si le langage est fondamentalement figuré et métaphorique, alors il est mythopoétique naturellement. Cela aussi, Max Müller le dit. Et par conséquent, si le langage est naturellement mythopoétique, à toute époque, il y a du mythe, sauf que le mythe est d'autant plus puissant qu'il n'est pas perçu comme tel. Quelles sont nos mythologies ? Eh bien, il y a des mythologies modernes. Et les fictions modernes qui ne se reconnaissent pas comme fiction deviennent en somme des mythes qui s'imposent à tous, ce qui fait que la compréhension du monde pour Mallarmé consistera à déconstruire les mythes modernes, en particulier de l'économie, en montrant que l'économie ne fonctionne que sur le crédit, c'est-à-dire, conformément à l'étymologie du mot crédit, c'est un phénomène de croyance pure et simple. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Voilà, en somme, la logique de Mallarmé, la finalité du livre. C'est une finalité intellectuelle, même si elle passe par des moyens poétiques ou métaphoriques. Il y a d'autres philosophes qui ont choisi aussi la métaphore pour comprendre le monde, par exemple Nietzsche, contemporain exact de Mallarmé. Je voudrais passer à un deuxième élément de fin, une deuxième forme de fin, peut-être plus anecdotique ici, je serai plus bref, je l'espère. Cette deuxième fin, c'est la fin qu'a évoquée Antoine Compagnon à propos de l'exposition récente à la Bibliothèque nationale sur les manuscrits de l'extrême, c'est-à-dire le moment où la littérature trouve sa limite, en quelque sorte, dans des circonstances exceptionnelles. Et parmi ces circonstances exceptionnelles, il y a la mort. Et la mort qui a frappé Mallarmé, c'est la mort d'Anatole, son fils, de 8 ans, mort en 1879, et qui a été un drame pour lui, qu'il a essayé de surmonter en écrivant un tombeau d'Anatole, dont on sait qu'il n'a jamais vu le jour, et qui ne sera publié, ou plutôt dont les notes ne seront publiées qu'en 1961 par Jean-Pierre Richard, à qui ces notes avaient été confiées. Alors voici, je ne prendrai qu'un feuillet du tombeau d'Anatole, qui est emblématique et qui permet de poser la question qui peut se poser pour tous ces manuscrits de l'extrême. Cette question fondamentale, c'est la question de l'interprétation qu'on en donne. Et cette question de l'interprétation qu'on en donne est liée aussi à ce qu'on peut appeler le surinvestissement émotionnel lié à ces textes. Il est évident que dans ces textes, il y a un surinvestissement émotionnel de la part de celui qui l'écrit. Il y a un surinvestissement émotionnel de la part de celui qui le lit, et qui en quelque sorte se projette sur le texte, surtout s'il a une expérience comparable. Et il y a aussi, entre celui qui l'écrit et celui qui le lit, un troisième personnage qui est essentiel, c'est celui qui, parce que ce ne sont que des notes, le donne à lire en le transcrivant. En l'occurrence, ici, c'est Jean-Pierre Richard. Voici cette note telle qu'elle est. Alors, il faut savoir que ces feuillets sont écrits à la va-vite, ce sont de simples notes, comme toujours chez Mallarmé, premier état d'un texte, de simples notes qui n'ont aucune prévisibilité. Quand on est en face d'un mot, on ne peut pas se fier au contexte. Les mots sont absolument imprévisibles bien souvent. Et c'est écrit au crayon qui s'efface, sur du papier de très mauvaise qualité, petit papier, 7,5 cm sur 12,5 cm. Voici un feuillet qui se lit ainsi. C'est la transcription de Jean-Pierre Richard. « Petit marin, costume marin, quoi, pour grande traversée, une vague t'emporta, mer à 7. » Et puis un mot que Jean-Pierre Richard n'a pas lu, c'est le mot qui est barré, juste en dessous d'A7. Alors, le point de départ de cette note, c'est tout simplement la mise en bière du petit mort. Mais mise en bière dans son costume de marin. Costume traditionnel des petits garçons à l'époque. Et on le voit, ce costume marin, au moment de la mise en bière, va entraîner une espèce d'idéalisation, de poétisation du petit mort. Il y a une élaboration poétique ou une tentative d'élaboration poétique par l'intermédiaire d'une métaphore filée, qui est la métaphore de la mer. Et cette métaphore de la mer va faire du petit mort une espèce de héros, un navigateur dans la traversée de cette mer nouvelle pour lui que constitue la mort. Pour grande traversée, une vague t'emporta, mer à sept. Évidemment, cette idéalisation, elle culmine aussi dans le terme qui est transcrit par Jean-Pierre Richard, ascète. L'ascétisme, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque le mépris du corps finit par produire, par ne plus laisser que l'esprit. Et la mort, c'est un processus, pourrait-on dire, ascétique. C'est le corps qui disparaît pour que le petit mort ne soit plus qu'un esprit, non pas dans le ciel, pour Mallarmé, mais au moins dans la mémoire des survivants. Et le mot que Jean-Pierre Richard ne peut pas lire, il en a quand même donné une lecture plausible en note, c'est en regardant les enjambements qui dépassent en haut et en bas de la rature, c'est toujours pur, toujours écrit en abrégé, TJS. Voilà un feuillet très émouvant, certes, et qui manifeste une élaboration poétique cohérente. Sauf que cette lecture est erronée. Cette transcription est erronée. Elle est erronée tout simplement parce que lorsque on regarde la rature, on se rend compte que toujours pur, ça ne colle pas. Alors évidemment, quand on est le deuxième éditeur, on cherche toujours à faire mieux que le premier et à percer les secrets que le premier éditeur n'a pas percés. Toujours pur, ça ne colle pas. Et à force de scruter cette rature, j'ai fini par trouver le mot qui est absolument certain et qui est sous la rature. Ce mot, c'est hydropisie. Et l'hydropisie, qu'est-ce que c'est ? C'est la maladie dont est mort Anatole. C'est le nom de la maladie. Et à ce moment-là, évidemment, par un choc en retour, si le mot ne doit pas se lire toujours pur, mais hydropisie, il va de soi que le mot qui surmonte la rature, c'est un mot qui remplace ce qui est raturé. C'est une variante. Et si c'est une variante, ce doit être un mot qui est un rapport avec celui qui a été raturé. Et à ce moment-là, on se rend compte que le mot « ascète » n'est pas le bon mot, que le bon mot, c'est un mot beaucoup moins courant, qui vient beaucoup moins facilement à l'esprit, c'est « ascite », A-S-C-I-T-E. Et qu'est-ce que c'est que l'ascite ? C'est la forme d'hydropisie dont est mort Anatole. L'hydropisie, c'est le terme générique, ascite, c'est le terme précis, le type même d'hydropisie dont il est mort. Ce qui, évidemment, change l'interprétation. Ce qui ne veut pas dire que l'interprétation est univoque. On pourrait dire, par exemple, première interprétation, il y a une élaboration poétique. Cette élaboration poétique se développe par la métaphore filée de la mer. Cela, ça ne change pas. Mais tout se passe comme si l'élaboration poétique butait en dernière instance, sur la froide technicité du vocabulaire médical qui dit ce dont est mort Anatole, comme si cette froide technicité-là ne pouvait pas faire l'objet d'une sublimation poétique. C'est une première lecture, mais on peut faire aussi une autre lecture, parce que les mots sont des mots. Et à ce moment-là, on pourrait dire que la matrice de cette élaboration poétique marine, à l'envers de ce que je viens de dire, ce n'est peut-être pas tant le petit marin, le costume marin du départ, que ce qui est à la fin, c'est-à-dire le mot qui en plus est barré, hydropisie, puisque le mot hydropisie signifie très exactement le mal de l'eau. C'est lorsque le corps est gonflé par l'épanchement séreux pour le péritoine lorsqu'il s'agit de l'ascite. C'est exactement ce qu'avait Anatole. En somme, vous avez deux lectures possibles qui sont antinomiques. D'un côté, c'est l'impossibilité de sublimer le mal. De l'autre côté, peut-être que c'est le mal lui-même qui a donné la clé de cette sublimation ou idéalisation poétique. Voici donc la lecture qu'il faut faire, mère, hydropisie, ascite. Deuxième texte qui est limite, cette fois, qui n'est pas un texte poétique, c'est le fameux testament de Mallarmé. Ce testament qu'il a écrit la veille de sa mort. Ce testament est connu depuis longtemps. Il a été publié par Henri Mondor dans sa biographie, mais le manuscrit a disparu depuis longtemps aussi. Et voici ce texte tel qu'il est reproduit par Henri Mondor et qu'il a été repris ensuite par tous. « Mère, veuve, c'est Geneviève, la fille, le spasme terrible d'étouffement subi tout à l'heure peut se reproduire au cours de la nuit et avoir raison de moi. Alors vous ne vous étonnerez pas que je pense au monceau demi-séculaire de mes notes, lequel ne vous deviendra qu'un grand embarras. Attendu que pas un feuillet n'en peut servir, moi-même, l'unique, pourrais seul en tirer ce qu'il y a. Je l'eusse fait si les dernières années manquant ne m'avaient trahi. Brûlé, par conséquent, il n'y a pas là d'héritage littéraire, mes pauvres enfants. Ne soumettez même pas à l'appréciation de quelqu'un ou refusez toute ingérence curieuse ou amicale. Dites qu'on n'y distinguerait rien, c'est vrai du reste, et vous, mes pauvres prostrés, les seuls êtres au monde capables à ce point de respecter toute une vie d'artiste sincère, croyez que ce devait être très beau. Ce mot, Mallarmé l'a donc écrit la veille de sa mort. Et puis il l'a laissé sous un buvard. Ce qui fait qu'il n'a pas été trouvé tout de suite à sa mort, par sa femme et sa fille. Elles ne l'ont trouvé que plus tard, lorsqu'elles ont rangé ses affaires, quelques semaines après. Et dès qu'elles trouvent ce mot, elles font appel à celui à qui elles font appel toujours, en pareil cas, c'est Paul Valéry. Paul Valéry est convoqué pour savoir ce qu'il fallait faire à partir de ce mot, qui était en quelque sorte le testament. Et voici ce qu'écrit Valéry à Gide au retour de sa visite. « J'ai été conduit dans la chambre mortuaire. Et là, sur la table intacte, on m'a donné à déchiffrer un papier tout griffonné, écrit la veille de la mort. J'y ai lu l'ordre de ne rien montrer des papiers, de ne rien publier d'inédit et de brûler ce grand monceau demi-séculaire de notes que je suis seul à comprendre. Ce lambeau était effrayant d'écriture convulsée. » Et à côté de lui, deux fragments presque finis d'Hérodiade, le dernier travail. Voilà ce qu'en dit Paul Valéry. Ce qui fait que le lecteur ne peut pas ne pas penser que ce manuscrit, si on le voyait, on y verrait la mort à l'œuvre, la mort qui presse le poète au point que son écriture est toute convulsée et que ce mot écrit dans l'urgence absolue a été rattrapé par la mort. Or, ce manuscrit, je l'ai retrouvé, et le voici. Que constate-t-on ? Vous avez la date, mercredi 8 septembre, l'adresse, mère, veuve, puis vous avez la lettre qui commence avec ces lignes qui sont parfaitement horizontales et parfaitement lisibles. Simplement, que fait Mallarmé ? Une fois qu'il a fait son premier jet, il corrige, il rature. Que fait-il en somme ? Il fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire c'est un manuscrit de travail, c'est un manuscrit où il cherche toujours l'expression la plus adéquate. Et évidemment, les ratures, quand elles s'enchevêtrent, produisent un petit effet d'illisibilité, mais ce n'est jamais qu'un brouillon. Et cela prouve une chose, c'est que Valéry n'a jamais vu un brouillon de Mallarmé. Parce que s'il avait vu un brouillon de Mallarmé, il en aurait conclu que Mallarmé était un convulsionnaire perpétuel. Donc, et encore, certains brouillons sont beaucoup plus convulsifs, si on peut dire, que celui-ci qui n'a rien de convulsif. Ce qui prouve que Mallarmé est toujours homme de lettres, qu'il travaille son écriture comme il le fait toujours lorsqu'il fait la moindre lettre au moindre de ses correspondants. Alors voici la suite, vous voyez toujours ces lignes parfaitement horizontales, sauf que les ratures et les corrections peuvent produire un effet d'illisibilité. Et voilà, Voilà l'intégralité de la lettre. Cette lettre, donc, ce n'est qu'un brouillon. Mallarmé agit toujours en homme de lettres, et ce n'est que le lendemain, après avoir laissé ce brouillon, qu'il entreprend de le mettre au propre, comme il fait toujours, de le mettre au net, comme on dit. Il commence la mise au net, il réécrit les quatre premières lignes, il s'interrompt pour une raison ou pour une autre, et c'est là qu'il est saisi d'une crise qui va l'emporter définitivement, ce qui fait que du quatrième feuillet, que je ne montrerai pas ici, on n'a que les quatre premières lignes qui sont recopiées au propre. Voilà en somme comment le surinvestissement par Valérie devant ce papier, avec l'émotion qui le porte depuis la mort de Mallarmé, qui est un père spirituel, l'a conduit à voir évidemment la mort à l'œuvre, là où il n'y a pas du tout la mort à l'œuvre. Le manuscrit, ça n'enlève rien à son émotion, mais ce n'est pas la mort qui est lisible ici. Et dernier point que je voudrais évoquer cette fois, c'est le dernier livre ou le dernier Mallarmé. Je n'ai pas parlé du sénile sublime de Mallarmé ou de la sénilité pure et simple de Mallarmé. D'abord, il est mort jeune, mais du dernier livre, ce qu'on peut considérer comme le dernier livre, et là aussi j'irai très vite sur un point particulier, c'est le coup de dé. Le coup de dé dont on a fait une œuvre testamentaire. Mallarmé a passé toute sa vie à chercher à abolir le hasard, et puis il a découvert à la fin qu'un coup de dé jamais n'abolirait le hasard, il n'avait plus qu'à mourir, il est mort. Sauf que, si c'est cela le testament de Mallarmé, alors le testament est écrit depuis longtemps, puisque cette leçon sur le coup de dé était déjà présente dans Égiture en 1870. Donc s'il y a un testament, il n'est pas là. On l'a pris aussi, le coup de dé, pour une œuvre finale, finale au double sens du terme. C'est la dernière œuvre et c'est l'œuvre qui est la finalité même de la littérature, ce qui n'est pas faux. Sauf que Blanchot, par exemple, c'est pour lui le livre à venir, avec le livre. Pour Barthes a une expression curieuse à propos du coup de dé. Il parle d'agraphie typographique, c'est-à-dire qu'il utilise le même mot agraphie qu'il utilise pour désigner le renoncement de Rimbaud à la littérature. Comme si le coup de dé était une autre façon de renoncer à la littérature. Alors, qu'est-ce que c'est que le coup de dé? C'est une œuvre finale. Certes, on peut considérer cela comme une œuvre finale qui a vocation à être, peut-être, un fragment d'exécuté du grand œuvre. Mais sur un point particulier, c'est sur un point particulier que je voudrais insister. On sait que dans le coup de dé, il y a des références à la musique. Mallarmé parle de partition. Il y a des références aussi aux arts plastiques, d'abord par la spatialisation de l'écriture, et puis surtout par le fait que signale Mallarmé qu'au moins deux pages ont une dimension iconique. Une page qui reproduit le mouvement du bateau dans la tempête et une page qui reproduit de loin l'apparition de la constellation. Et voici ce que... Alors on pourrait dire... Cette œuvre finale est finale parce que c'est l'œuvre d'art total, Mallarmé contre Wagner. Il propose sa propre œuvre d'art total sous l'égide de la poésie et non pas sous l'égide de la musique. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est un aspect qui n'a jamais été remarqué à propos du coup de dé et qui me semble en fait essentiel. Voici ce qu'il écrit à Camille Mauclerc en 1997, le 8 octobre. Au fond des estampes. Je crois que toute phrase ou pensée, s'il a un rythme, doit le modeler sur l'objet qu'elle vise et reproduire jeté à nu immédiatement, comme jaillit en l'esprit, un peu de l'attitude de cet objet quant à tout. La littérature fait ainsi sa preuve, pas d'autre raison d'écrire sur du papier. Notion de preuve fondamentale, qui a été développée par Jacques Scherrer dans sa préface du livre de Mallarmé, qui a été reprise d'ailleurs par Roland Barthes, qui en fait l'équivalent de ce qu'il appelle, lui, le marcottage ou l'essaimage. C'est la preuve interne, en quelque sorte, par opposition à la preuve externe. Comment la littérature peut-elle faire sa preuve? Je n'insiste pas. Ce qui est important, c'est que quand la littérature fait sa preuve, c'est qu'elle est véritablement quelque chose qui renvoie à cette longue trajectoire. La fin doit être reliée au commencement. Une œuvre n'a de sens que si la fin est liée au commencement. Alors le commencement, ce sont les lettres qu'il ne faut jamais oublier pour ne pas dériver dans l'illusion. Mais ici, quel est le commencement dont il est question ? Et Mallarmé ajoute, pas d'autre raison d'écrire sur du papier. Allons bon, pourquoi pas d'autre raison d'écrire sur du papier ? Qu'est-ce qui le pousse à écrire cela ? Pour Gide, il est un peu plus explicite. La constellation y affectera, d'après des lois exactes, et autant qu'il est permis à un texte imprimé, fatalement, une allure de constellation. Le vaisseau y donne de la bande, du haut d'une page au bas de l'autre, etc. Car c'est là tout le point de vue qu'il me fallut omettre dans un périodique, le rythme d'une phrase au sujet d'un acte, ou même d'un objet, n'a de sens que s'il les y limite et est figuré sur le papier, repris par les lettres à l'estampe originelle, en doit rendre malgré tout quelque chose. Toujours la référence à l'estampe. Sauf qu'ici, l'estampe est dite originelle. Et puis, un dernier document qui, lui, n'a été redécouvert que récemment, je l'ai publié pour la première fois dans la Pléiade, c'est un projet de préface pour le coup de dé, où il est question de Bismarck, mais c'est tout simplement parce que Mallarmé récupère d'anciens papiers pour ne pas gaspiller. Il est écologiste avant l'heure. Donc, voici la transcription, la double transcription de ce texte. Premier paragraphe, c'est le premier G. Deuxième paragraphe, c'est le deuxième G. C'est la correction. Je ne lis que le premier paragraphe parce qu'il n'y a pas de grosse différence. Voici un poème conçu et écrit avec des habitudes tout à fait différentes de celles qui défrayèrent la tradition. La parole se profère libre dans le domaine des sons et de l'intelligence et, pour ainsi dire, y suspend son vol à l'esprit. Mais si, pour quelque motif, elle requiert le papier dépossédé de sa fonction originelle de présenter des images, alors ne doit-elle pas remplacer celle-ci à sa façon, idéalement, effectivement. J'ai donc pensé qu'une suite d'images reliées et rattachées par un fil, et ici, le texte est interrompu. J'ai mis en rouge la partie essentielle. Le papier, donc, dépossédé de sa fonction originelle de présenter des images. À quoi peut bien penser Mallarmé lorsqu'il écrit ceci ? Eh bien, il pense à quelque chose de très précis, à quoi vous pensez sans doute désormais, c'est-à-dire que Mallarmé fait référence à un commencement qui n'est pas l'origine absolue, celle des lettres, de la littérature, mais à un recommencement qui a eu une importance capitale dans l'histoire de la littérature. Ce recommencement, c'est la révolution de l'imprimerie. Qu'est-ce que c'est que la révolution de l'imprimerie ? C'est le détournement du procédé de l'estampage pour imprimer non plus des images, mais des lettres. En somme, lorsque Mallarmé parle de l'estampe originelle, cette estampe originelle était liée au papier. Et d'une certaine façon, si nos livres sont sur papier, c'est précisément en raison de cette révolution de l'estampage qui a permis de produire le livre tel que nous le connaissons. Voilà en somme comment, ici, cette utilisation de ces estampes dans le coup de dé, ou de ce que Mallarmé considère comme des équivalents idéaux ou fictifs des estampes, voilà comment cela permet au poète de boucler la boucle de toute une histoire, de l'invention de l'imprimerie jusqu'à cette nouvelle révolution que constitue le coup de dé, comme fin possible de la littérature, mais comme une des fins possibles au sens de finalité et non pas au sens d'achèvement, bien entendu. J'ai été trop long, donc il me reste à mettre ce dernier mot.